Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui du jeudi 21 novembre 2019. Et Kabadou avec vous. Voici les titres. Au Burkina Faso, deux nouvelles attaques font au moins 3 victimes au sein de l'armée. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir tué 7 miliciens Maïmaï. En Israël, Benjamin Netanyahou mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Ici aux États-Unis, cinquième jour dans les auditions publiques au Congrès sur une éventuelle mise en accusation du président Trump. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Trois soldats burkinabés ont été tués ce matin au cours de deux attaques quasi simultanées dans les localités de Kelbo et Namisigima, dans le nord du Burkina. Les précisions de Bagassikoura.
Le détachement militaire de Kelbo a été attaqué très tôt le matin, faisant deux morts quasiment au même moment. Un autre groupe armé a attaqué le détachement de Namisigima. Un autre soldat a également été tué dans cette attaque, a ajouté une source sécuritaire. Plusieurs militaires ont été blessés. Certains sont évacués vers Kaya où ils sont soignés. Des motocyclettes et un pick-up ont été volés par les assaillants après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels, a ajouté une source sécuritaire. Confirmant les deux attaques, une opération de ratissage menée par les soldats appartenant aux forces de sécurisation du Nord est en cours, a précisé la même source. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait près de 700 morts depuis 2015, selon un comptage de l'agence France-Presse, et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon les Nations Unies.
Nous reviendrons sur la situation du Burkina Faso dans la partie magazine avec Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Au Bénin, le retour de l'ancien président Boni Yayi aura été bref. Arrivé en milieu d'après-midi hier, il est reparti en début de soirée avec la délégation de la CDAO qui l'a ramené. La rencontre avec Patrice Talon était prévue à 17h à la présidence de la République, mais l'ancien président ne s'y est pas présenté. L'entretien s'est fait sans lui et a duré environ 1h20. Il n'y a eu ni déclaration ni communiqué. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir tué 7 miliciens Maïmaï qui ont attaqué ses positions dans le sud Kivu, théâtre de conflits interethniques. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Cette attaque attribuée aux miliciens Maïmaï Ngoumino a eu lieu dans les villages de Roussankoukou et Kananda, dans le territoire de Fizi, d'après le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans le sud Kivu. Il a ajouté que les assaillants ont été repoussés, 7 corps de miliciens identifiés et un militaire blessé. Les Maïmaï sont constitués sur une base communautaire pour la défense de leurs intérêts. Depuis mai, un regain de violence est enregistré sur les plateaux de Minembwe entre les éleveurs de la communauté Banyamulenge et les cultivateurs de communautés Bufalero, Babembe et Banyundu. L'origine de ces violences se trouve dans des différents fonciers liés à la gestion des pâturages et des champs. En octobre, la MONUSCO a recensé 90 incidents qui ont entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes dont les maisons ont été brûlées.
Par ailleurs, des manifestants ont bloqué le cortège du gouverneur du Nord Kivu en visite à Beni en plaçant des morceaux de bois et des pierres sur son trajet. Cortège bloqué, casque bleu pointé du doigt, magasin fermé. Les habitants de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont exprimé leur colère contre les officiels et les Nations Unies au lendemain de nouveaux massacres de civils. Au moins 50 000 personnes ont été sinistrées par des inondations provoquées par des fortes pluies le long du fleuve Congo, conduisant le gouvernement congolais à décréter l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire. En Guinée-Bissau, les membres des forces armées et de sécurité ont donné le coup d'envoi de l'élection présidentielle en votant dans le calme, 3 jours avant le reste des électeurs du pays. La Guinée-Bissau a connu depuis son indépendance en 1974 4 coups d'état et une kyrielle de tentatives de putsch, d'assassinats politiques et de chute de gouvernement. Au Nigeria, un ancien ministre de la Justice, impliqué dans l'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire de son pays, a été arrêté à Dubaï, c'est ce qu'a annoncé son avocat. L'actuel président Muhammadu Buhari, réélu pour un second mandat en février dernier, a promis de mener un combat sans répit contre le cancer de la corruption qui gangrène le principal producteur de pétrole africain. L'ancien ministre sud-africain de la Sécurité, Bongani Bongo, a été interpellé ce jeudi pour corruption, devenant la première personnalité politique de Oran visée par le grand nettoyage promis par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Monsieur Bongo est soupçonné d'avoir tenté de faire pression sur une commission d'enquête parlementaire sur la gestion controversée du géant sud-africain de l'électricité, Eskom, c'était en 2017. En Afrique du Sud, toujours un événement intitulé Africa Unite pour promouvoir l'unité du continent et dénoncer les récentes attaques visant les immigrés africains a été annulé par crainte de possibles débordements. Les deux shows prévus ce week-end étaient à Pretoria et au Cap. En Algérie, le début de la campagne pour la présidentielle du 12 décembre prochain se déroule dans un climat de répression et d'atteinte aux libertés défavorables à la libre expression des opinions, s'inquiète Amnesty International. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de l'enquête en vue de l'ouverture éventuelle d'une mise en accusation du président des États-Unis se poursuivent. Un employé de l'ambassade américaine en Ukraine et une ex-conseillère à la Maison-Blanche témoignent aujourd'hui. Compte rendu Jacques Aristide.
Fiona Hill, ancienne membre du Conseil de sécurité nationale, a critiqué ce qu'elle appelle la propagation de mensonges qui servent la Russie. En allusion à la théorie du président Donald Trump et des élus républicains, selon laquelle l'Ukraine s'est ingérée dans la présidentielle de 2016. Le républicain David Nunes a rappelé que son parti est bien d'accord que la Russie s'est ingérée dans l'élection. Mais il est tout à fait possible, dit-il, que deux pays s'engagent dans des ingérences électorales en même temps. Quant à l'autre témoin, David Holmes, du département d'État, il a dit avoir été témoin auditif dans un restaurant à Kiev d'une conversation téléphonique entre le président Trump et l'ambassadeur Gordon Sondland. D'après lui, le président américain voulait savoir si l'Ukraine allait enquêter sur un rival politique, Joe Biden. Pour les républicains, entendre un tel appel sans la fonction haut-parleur du téléphone est invraisemblable. Les deux témoins de ce jeudi ne sont pas directement liés à l'entretien téléphonique entre le président Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le 25 juillet dernier, appel qui a déclenché l'enquête des démocrates.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé le procureur général d'Israël. Le point avec Nathalie Barge.
Le procureur général Avishai Mandelblit a décidé d'inculper le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans l'affaire 4000 qui concerne un échange présumé de bons procédés avec le patron d'une société de télécom, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. Il est poursuivi pour avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de cette société de télécom en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe, le site Walla. Sa mise en examen aura des conséquences politiques alors que les parlementaires ont 3 semaines pour trouver un futur Premier ministre après l'échec de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz à former un gouvernement et sur demande du président Reuven Rivlin afin d'éviter de nouvelles élections.
Aussi, les autorités israéliennes ont arrêté une nouvelle fois le gouverneur palestinien de Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé la police au lendemain de la fermeture d'organisations palestiniennes dans la ville sainte par Israël. Les autorités iraniennes sont exhortées par l'Union européenne à faire preuve de la plus grande retenue dans la gestion des manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours. Manifestations qui ont éclaté vendredi en Iran, quelques heures après une hausse du prix de l'essence. Les autorités ont confirmé 5 morts. Pour Amnesty International, plus de 100 manifestants auraient été tués et le nombre réel de victimes pourrait s'élever à 200. Le pape François, en visitant Thaïlande, a déploré les ravages de la prostitution des femmes et des enfants lors d'une messe devant 60 000 fidèles dans la foulée de rencontres avec le roi et le patriarche des bouddhistes. La communauté catholique de Thaïlande, très confidentielle, 0,6% de la population, soit moins de 400 000 personnes, est née au 15e siècle avec l'arrivée de missionnaires jésuites. Elle n'a pas vu de pape sur ses terres depuis Jean-Paul II, c'était en 1984. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine et mondiale ce soir. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Naïd Salami.
Pour commencer, le Gabon vient d'acquérir une victoire dans le litige qui l'oppose au groupement Santoulo Sericom. Après 4 ans de procédure, un tribunal parisien vient de revoir à la baisse le montant des 328 milliards de francs CFA réclamés par cette entreprise au titre de dommages et intérêts. Il s'élève désormais à 90 milliards de francs CFA, soit une baisse de 73%. Cette décision fait suite aux éléments de preuve présentés par l'État gabonais et montrant que Santoulo Sericom n'avait que très peu rempli ses obligations et avait remporté ses marchés de façon illicite. Les autorités égyptiennes veulent porter la superficie consacrée à la culture de soja à 32 000 hectares en 2019-2020 contre environ 14 800 hectares exploités durant la campagne précédente. Cette augmentation de la surface devrait booster la production du soja à 128 000 tonnes contre 50 000 tonnes. Pour terminer, des dizaines d'employés d'ArcelorMittal, le deuxième fabricant européen d'acier, ont manifesté à Saldanha en Afrique du Sud contre la fermeture prochaine de leur usine qui emploie 900 personnes. Mais cette fermeture se traduira par la perte totale d'environ 4 000 emplois car de nombreux sous-traitants seront aussi affectés. ArcelorMittal a décidé de fermer ce site début 2020 en raison de la chute des cours de l'acier.
C'est le moment de la page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïtia, bonsoir à tous.
Younous Sankaré et Bordeaux ont trouvé un accord.
Oui, le milieu de terrain sénégalais et les Girondins se séparent à l'amiable. Écarté par Paulo Souza depuis l'été dernier, Younous Sankaré n'a jamais été réintégré par le technicien portugais. Le club reprochait notamment à l'intéressé son comportement. Une procédure de licenciement avait même été entamée à l'encontre du milieu de terrain. Bordeaux souhaite aux joueurs de retrouver un club mis à pied depuis le 5 septembre dernier. L'international sénégalais, arrivé en provenance de Lille pour 3 millions d'euros en 2017, était sous contrat jusqu'en juin 2021. Younous Sankaré a joué 84 matchs avec les Bordelais, inscrivant 19 buts.
Hassani Agadir au Maroc limoge son entraîneur.
Miguel Angel Gamondi paie ainsi la défaite en finale de la Coupe du Trône. Lui qui avait encore un an de contrat, Hassani Agadir a perdu 1-2 contre Tiad Athletic Sport de Casablanca, un club de deuxième division. Depuis 2 ans au club, l'Argentin a fini troisième du championnat à 3 reprises. Il a qualifié le club à 2 reprises pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Dans un courrier qui a fuité, les dirigeants du club marocain reprochent aussi à Gamondi son manque de respect envers les membres du comité directeur, sans plus de précision.
L'AC Milan propose un contrat de 6 mois à Ibrahimovic.
Oui, en difficulté depuis le début de la saison, l'AC Milan a proposé une pige de 6 mois à son ex-star de 38 ans qui a annoncé la semaine dernière son départ des Los Angeles Galaxy. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia, le club italien a engagé les négociations avec Mino Raiola, agent de Zlatan Ibrahimovic, pour tenter de le faire revenir en Lombardie, où il avait passé 2 saisons entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matchs, contribuant au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010-2011. L'AC Milan peine à décoller cette saison, seulement 14e de Serie A, après 12 journées de championnat.
La police péruvienne en alerte maximale pour la finale de la Copa Libertadores.
4000 policiers, des hélicoptères et des drones ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la finale de la Copa Libertadores qui aura lieu ce samedi. C'est la première fois que le champion en titre argentin River Plate et le club brésilien Flamengo s'affrontent. Plus de 20 000 supporters argentins et brésiliens sont attendus. L'an passé, la vénérable compétition de clubs sud-américaine a dû délocaliser à Madrid la finale retour entre les rivaux argentins de River Plate et Boca Juniors après des violences survenues à Buenos Aires.
Merci Yacouba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Kabadou, toujours en votre compagnie, face à présent à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso, théâtre d'attaques régulières attribuées à des groupes djihadistes depuis 2015. Pourtant, après une réunion à Bruxelles en février 2018, les donateurs avaient promis des centaines de millions de dollars à la force du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Est-ce que ces promesses ont été tenues ? Pour un éclairage, Idriss Fall, adjoint à New York, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
On l'a pas reçu. C'est maintenant qu'il y a quelques matériels qui ont commencé à être livrés. Il y a eu des retards. Il y a des structures qui devaient fabriquer les matériels en question. Il y a eu des retards. Chaque fois qu'on a dit ils vont donner à tel moment, après ça prend encore du temps. On est resté dans cette succession de reports, et jusqu'à maintenant. Alors que la réunion de Bruxelles, c'est depuis février 2018.
Les G5 Sahel, on sait que le Mali, il y a quand même quelques problèmes parce qu'on a vu une lettre du Burkina se plaindre des incursions maliennes alors que les opérations devaient être conjointes. Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et le Burkina?
C'est quelque chose qu'on est en train de régler. Je préfère ne pas me prononcer dessus. On appartient au même espace. On a des relations d'amitié, de fraternité, de coopération. Donc, en principe, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce qu'il y a un problème aussi avec la France? On a vu beaucoup de voix s'élever contre la France au Burkina Faso. Et pourquoi?
C'est une situation un peu générale partout, mais on est en train de gérer la situation. Je préfère ne pas pouvoir en dire plus.
Mais la France est une alliée du Burkina Faso. Et la France a même des soldats sur place, non?
Oui, la France est un pays allié dans la guerre du Burkina contre le terrorisme. C'est un allié important.
Que pensez-vous de ces alertes-là pour que les citoyens français ne se rendent pas au Burkina Faso?
C'est la même chose que font la plupart des pays. Hein. Je constate avec tout le monde. Sur ces questions, je ne peux pas en dire plus, étant moi-même chargé de gérer ça.
Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est bien outillé pour vaincre le terrorisme alors?
Bien outillé. Dans tous les cas, la menace à laquelle nous faisons face est une menace nouvelle pour nous. Bon, ça fait 4 ans déjà que ça a commencé, mais c'est la première fois que le Burkina fait face à un conflit intérieur et donc essaie de s'adapter avec des alliés ou la communauté internationale. On est obligé de se battre pour assurer la survie de notre pays. Donc c'est un combat qui va être mené et qui est déjà en train de se mener.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir donner un coup de main, comme on dit, peut-être même une participation des portes ivoiriennes ou peut-être même sénégalaises?
Tout ça est en étude dans le cadre du plan d'action de la CEDEAO et également au niveau de l'UMOA.
Et vous pensez que la solution, c'est une solution militaire pour combattre le terrorisme, d'autant que les Américains, eux, discutent avec les talibans afghans?
La solution n'est pas que militaire, la solution est aussi celle de développement, la solution aussi est celle de la cohésion sociale. La solution, c'est aussi celle de la réponse aux préoccupations des zones qui sont concernées ou des populations qui sont concernées. Donc, tous d'accord que la réponse n'est pas que militaire.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la longévité au pouvoir en Afrique. Le président Paul Biya vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun, alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir de certains dirigeants? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En Algérie, le début de la campagne pour la présidentielle du 12 décembre se déroule dans un climat de répression et d'atteinte aux libertés selon Amnesty International. Hier soir, au moins 23 personnes ont été arrêtées suite à la première manifestation nocturne qui a réuni plusieurs centaines d'opposants au scrutin. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint à Alger la journaliste Djamila Oul-Ketab.
C'était surprenant en fait, c'est que le mot d'ordre du mouvement de contestation qui est apparu le 22 février, c'est d'abord dans un premier temps contre la candidature de la justice efficace, puis ensuite plus généralement contre le régime politique. Ce qui était surprenant, c'était que le mot d'ordre, c'était de ne pas faire des manifestations nocturnes, et donc pour le moment, ils se sont tentés des marches hebdomadaires chaque vendredi. Là, on voit que le mouvement a décidé d'intensifier la contestation à l'approche de l'élection. Il faut savoir qu'elle aura lieu dans seulement 3 semaines. Et donc, du coup, il y a des centaines de personnes en provenance donc de Babeloa, d'un quartier populaire d'Alger, qui se sont dirigées vers le centre de la capitale, à la Grande Poste, donc pour empêcher et créer sa détermination à ne pas voir la mise en place de ce vote. Donc, du coup, c'est ainsi qu'au-delà des marches du vendredi, une partie des manifestants, en tout cas, est déterminée à intensifier leur mouvement.
Est-ce qu'à votre avis, les élections vont pouvoir avoir lieu?
Alors, en fait, c'est une question que tous les observateurs se posent depuis l'annonce de l'organisation de ces élections. C'est vrai qu'on voit la détermination du régime à se diriger et à imposer des scrutins. Hein. On parle d'une élection en marche forcée ici. Alors, du coup, la campagne a démarré dimanche dernier, mais elle est une campagne sous tension. C'est une campagne très laborieuse pour les 5 candidats qui sont en lice. Il faut savoir que pratiquement tous les meetings ont été chahutés par des manifestants qui montrent leur détermination à essayer d'empêcher ce scrutin. D'ailleurs, c'est devenu le principal slogan aujourd'hui du mouvement de contestation, c'est pas de vote, pas d'élection.
Avez-vous été surprise par les mots du général Salah qui a parlé d'élan populaire face à ces élections?
Oui, ça, le général des salaires, c'est un peu le BRC des élections, hein, c'est l'homme fort du régime depuis la démission du président de la justice en avril dernier. On en est à son deuxième discours en 48 heures, donc il faut s'attendre à de son côté, du côté de l'armée aussi, on intensifie la pression pour appeler les Algériens à les voter.
La journaliste Jamila Oulketab.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Ghana est considéré comme le centre de l'invention par excellence en Afrique de l'Ouest. De plus en plus de jeunes y cherchent des solutions locales aux problèmes locaux. En décembre, le Ghana organise deux conférences sur l'innovation et la technologie. Stacy Knott a rencontré à Accra certains de ces inventeurs ghanéens. Son reportage est présenté par Abdourahmane Dia.
Co-fondateur de Recycle App, Alassane Baba Mouneru veut assainir l'environnement au Ghana. Mais il veut aussi éduquer, responsabiliser et aider les jeunes à faire de la conservation tout en gagnant de l'argent. Lors du sommet Innovation Africa de décembre à Accra, il a l'intention de plaider en faveur d'un soutien accru aux jeunes inventeurs, en particulier ceux qui souhaitent faire du green business.
Même en tant qu'étudiant, nous sommes déjà entrepreneurs. Donc pour moi, je peux être capable de faire un travail formel, mais la liberté de pouvoir mettre mes idées en pratique et de vraiment prendre en charge quelque chose de concret et de rendre la société meilleure, c'est beaucoup plus enrichissant.
Recycle App fait, entre autres, de la collecte de plastique dans les écoles qui sont ensuite revendues à des personnes comme Nelson Boateng, dont la société fait des briques grâce à un mélange avec du sable. Boateng, qui fabrique également des sacs en plastique, affirme que les briques sont sa manière d'aider à assainir l'environnement et à créer des emplois.
Il est très difficile d'innover au Ghana si vous n'avez pas la volonté. Vous perdez tout espoir car honnêtement, lorsque je fabriquais mon sac en plastique qui pollue l'environnement, j'avais beaucoup d'argent. L'argent n'est pas un problème. Mais j'ai commencé ce nouveau business. Vous allez à la banque, ils veulent quelque chose qui va faire rentrer l'argent, pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et quand vous dites que vous essayez de sauver l'environnement, personne ne vous écoute.
L'appui aux startups de technologie devrait être discuté lors d'une autre conférence en décembre à Accra, le deuxième sommet annuel des technologies au Ghana. L'inventeur ghanéen Andrew Kwawo s'emploie à alléger le fardeau des hôpitaux grâce à une technologie capable de diagnostiquer les maladies chroniques et tropicales dans les pharmacies. Il estime que les industries de santé africaines dans des pays comme le Ghana sont prêtes pour des solutions innovantes.
Je pense qu'on est dans la bonne direction. Le climat est bon. Vous avez un bon mélange des talents et d'expériences locales et des expatriés qui voient le Ghana comme un bon point de départ. Cela fonctionne également. Nous avons
ont plus de talent, les membres de la diaspora, des gens comme moi qui ont fait leurs études aux États-Unis, reviennent et essaient d'apporter des innovations dans leur pays.
Malgré le soutien des secteurs publics et privés à l'innovation, les entrepreneurs espèrent bénéficier d'un appui plus soutenu lors des sommets Innovation Africa et Ghana Tech.
Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Nunez-Hiro
et Mohamed Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Au Kenya, un programme apprend des techniques agricoles aux prisonniers afin qu'ils puissent gagner leur vie une fois sortis de prison. Les détenus sont également encouragés à partager ce qu'ils ont appris avec les autres membres de la communauté. Le point avec Blanche Sanou.
Après avoir purgé une peine de 5 ans dans une prison kenyane, Duncan Deteru est de retour chez lui où il cultive du maïs et du café sur son terrain de 3 hectares. L'ex-prisonnier a bénéficié d'un programme de réhabilitation à travers une formation en techniques agricoles.
J'ai acquis des compétences en agriculture bio et je les ai très bien maîtrisées. Une fois ma peine de prison terminée, je suis rentré chez moi pour appliquer les techniques apprises. J'en ai fait une entreprise qui m'aide à nourrir ma famille et à rester à l'écart du crime pour ne pas retourner en prison.
Il transmet également aux membres de sa communauté les pratiques agricoles acquises en prison pour les aider à rentabiliser leurs exploitations agricoles. Il bénéficie également du soutien de sa femme, Béatrice Nderitu.
Je ne récoltais rien de la ferme avant, mais maintenant j'obtiens de meilleurs rendements. Nous sommes des agriculteurs. J'ai vu de mes propres yeux le changement chez Duncan. S'il trouve des personnes pouvant le soutenir, il ira loin. Il travaille très dur, même les voisins s'accordent à le reconnaître.
Le gouvernement du Kenya a dit avoir entrepris de transformer les prisons en centres de réhabilitation plutôt que de punition. En dehors de l'agriculture, les détenus comme Zachary Muriki peuvent également apprendre la menuiserie, la couture, la coiffure et la maçonnerie.
Je sortirai avec beaucoup de connaissances. J'ai appris beaucoup de choses grâce au programme. J'ai appris à subvenir à mes besoins par l'agriculture pour pouvoir manger à ma faim et aider ma famille. Je suis très reconnaissant. C'est une bonne chose que je sois emprisonné, car je n'aurais pas eu accès à cette formation autrement.
Le programme connu sous le nom de RODI a été lancé en 1999 par une ONG locale formant les détenus à l'agriculture biologique, l'élevage et la fabrication de savon. Peter Chegué est l'un des formateurs du programme.
Ils sont en mesure de mettre en pratique les compétences acquises pour aider leurs familles, employer d'autres jeunes et contribuer à la prévention des crimes. Ce programme aide donc à réduire le taux de récidive tout en essayant de prévenir les crimes dans les communautés.
Selon les initiateurs du projet, le programme est en cours d'exécution dans différentes prisons du Kenya. À ce jour, il a contribué à la formation de plus de 1300 détenus.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Michel Joseph était à la mise en onde, Michael Dubinsky à la console. C'était Ekia Badou à Washington et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VO Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.